toute l'actualité, Julien Coquel-Roem.
Et un œil sur le reste de l'info internationale ce matin avec cette journée de deuil national aujourd'hui en France. Plus d'une semaine après les ravages du cyclone Chido, une minute de silence à 10h, temps universel et les drapeaux en berne. Dans tout le pays, le bilan humain du cyclone, le plus violent depuis près d'un siècle, reste inconnu et largement sous-estimé. 35 morts ont pour l'instant été officiellement recensés, près de 2500 blessés. La France qui reste par ailleurs toujours sans gouvernement. L'entourage de François Bayrou fait savoir que les derniers réglages sont en cours. Le Premier ministre avait promis la nomination de son équipe avant Noël. Le nouveau dirigeant syrien promet que toutes les armes du pays passeront bientôt sous le contrôle de l'État et que toutes les factions armées seront progressivement dissoutes pour intégrer l'armée nationale. Abou Mohamed Al-Joulani, qui poursuit par ailleurs ses prises de contact diplomatiques. Après une délégation libanaise, il recevait hier le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, exhorte la communauté internationale à lever au plus vite toutes les sanctions qui pèsent sur Damas. Et puis les bombardements quotidiens encore sur la bande de Gaza, la défense civile de l'enclave palestinienne annonce un bilan de 35 personnes tuées par l'armée israélienne hier, alors que les espoirs d'un cessez-le-feu semblent être ravivé. Pour la deuxième fois en deux jours, le pape François a condamné la cruauté des frappes israéliennes sur Gaza malgré les critiques de Tel Aviv la veille, après des déclarations similaires. Et bonjour Théo Renaudon.
Bonjour Julien.
La revue de la presse africaine avec vous et à la une, les tensions Nigeria-Niger qui persistent.
Oui, le torchon brûle entre les deux pays, constate le site afrique.com. Les relations déjà fragiles entre ces deux voisins ouest africains s'enveniment davantage après les accusations portées par le Niger. Celui-ci reproche au Nigeria de servir de base arrière pour des actions visant à déstabiliser son gouvernement, écrit le site. En clair, le Nigeria abriterait des bases françaises, allégation fermement démentie par Abuja. Déjà il y a 10 jours, une attaque qui avait ciblé l'oléoduc Niger-Bénin avait déjà mis le feu aux poudres. La télévision publique nigérienne avait alors pointé du doigt le Nigeria qui avait démenti. Ce matin, la presse nigérienne affirme que Niamey reste prudent. Le journal Tam Tam Info affirme avoir constaté une présence massive de forces armées nigérianes sur l'axe Dosso-Maradi. Du matériel lourd a été déployé, selon un de leurs reporters, pour faire face, je cite, à toute éventualité. Ce même journal qui s'inquiète de cette nouvelle escalade. Les deux pays sont confrontés à de nombreux défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Une coopération étroite est donc essentielle pour rassurer la sécurité et la stabilité dans la région, estime le journal. Mais Tam Tam Info prévient, il appartient au Nigeria de faire preuve de sa bonne foi en éloignant de son territoire les dirigeants de l'ancien régime déchu, soupçonnés par Niamey d'être derrière des actes de terrorisme contre le Niger, en complicité avec la France. Beaucoup de ces fonctionnaires ont même été déchus de leur nationalité nigériane, explique le journal. Et pourtant, Abuja ferme les yeux sur les activités subversives. Enfin, Tam Tam Info conseille le Nigeria, on ne peut pas gagner la confiance d'un pays en entretenant des relations avec ses ennemis.
Autre titre, le retrait acté de l'Alliance des États du Sahel, Mali-Burkina-Niger, de la CEDEAO.
Un coup dur pour l'unité régionale et par extension pour l'unité africaine, déplore le site d'information MaliWeb. Dans une analyse, le site donne la parole à plusieurs points de vue, dont un qui compare les États de l'AES au Royaume-Uni, dont l'Union européenne. Malgré les avantages qu'offre l'Union européenne, cite le journal, la Grande-Bretagne a décidé en toute souveraineté de quitter l'UE, mais Londres continue toujours de collaborer avec 27 pays de l'Union. La rédaction de MaliWeb avance que les dirigeants de la CEDEAO ont tout fait pour montrer à leurs homologues de l'AES que le divorce n'est pas inéluctable et que l'alliance des États du Sahel peut exister au sein de la CEDEAO, mais selon le journal, observateurs, commentateurs et diplomates sont formels. Il y a peu d'espoir de dialogue pour que le trio revienne sur cette décision de retrait.
Pendant ce temps, au Burkina Faso, le site de Aujourd'hui au Faso se moque de la base française 188 à Djibouti.
Dernier point d'ancrage français militaire en Afrique, si loin du Sahel, raille le journal, un éditorial où il se moque d'une phrase d'Emmanuel Macron sur la base française. Djibouti va se réinventer comme le point de projection pour des missions en Afrique, avait dit le président français. Chiche répond aujourd'hui au Faso qui ajoute de toute façon qu'à l'évidence, la France n'a pas le choix. Ses militaires ont été sommés de quitter de mauvaise grâce Mali, Burkina, Niger et ont pris leur sac à dos pour un retrait au Tchad et au Sénégal. 1500 hommes à Djibouti, l'eau de consolation pour la France, pointe le journal. Journal burkinabé qui analyse, je cite, que la France espère toujours une normalisation progressive de ses relations avec cette région constituée en partie de son ex-précaré. Elle a pris, je cite, conscience qu'avec ce Sahel, une mutation de paradigme s'impose, des signes encourageants, si les vieilles habitudes néocoloniales et de condescendance disparaissent, prévient le journal.
Théo Renaudon pour la revue de Presse Afrique, merci beaucoup. 7h50 à Kinshasa, des combats encore violents hier entre l'armée congolaise appuyée par les milices locales du Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'armée a fait recours à son aviation dans le territoire du Lubero où les combats se concentrent ces derniers jours. Un regain de violence alors qu'en RDC on compte toujours près de 7 millions de déplacés internes suite aux différents conflits. La situation est particulièrement critique dans l'est du pays où la guerre sévit depuis plus de 2 ans et dans les camps de déplacés où les conditions de vie sont inhumaines, comme le répètent régulièrement les autorités et les acteurs humanitaires. Emmanuel Lampart est le directeur de Médecins sans frontières en RDC et il revient justement d'une mission dans l'Est. Il est notre grand invité Afrique, au micro de Pauline Azidi.
Emmanuel Lampart, bonjour.
Bonjour.
Vous rentrez d'une mission dans l'Est du pays. Quelle est la situation humanitaire que vous avez constatée ?
J'étais à l'Est jusqu'à la semaine passée, notamment dans le territoire de Calais et ensuite à Goma, dans les camps. Le constat, il est assez déplorant. C'est-à-dire la situation perdure, s'enlise. Ce que j'ai pu voir dans les camps autour de l'hôpital général de référence de Minova, certes avec une distribution alimentaire en cours, mais même pendant cette distribution alimentaire, les gens se piétinent, se poussent. Donc ça montre qu'ils sont vraiment dans la souffrance, qu'ils ont besoin de cette aide essentielle. Et il y a eu même des morts à déplorer. Dans l'hôpital, j'ai vu le service de chirurgie débordé. Pas des traumas, des accidentés, de la voie publique. On parle là des gens qui reviennent du front. On est maintenant 2 voire 3 ans dans les conséquences de cet enlisement, de ce conflit. Et ça, c'est un constat qui fait mal.
Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents, sachant que la réponse humanitaire a été un peu plus financée cette année que les années précédentes, donc l'argent est là, et pourtant les conditions restent dramatiques dans les camps de déplacés.
Certes, on a tous pu le lire que jamais auparavant, le plan de réponse humanitaire a reçu autant d'argent. Faut-il encore pointer que 3/4 vient d'un donateur spécifique et que pas mal se fait par des transferts de cash. Le constat est là et les besoins prioritaires sont toujours là. C'est-à-dire l'essentiel en termes de eau et assainissement n'est pas assuré. Et puis, bien évidemment, on doit toujours marteler la prise en charge de qualité avec confidentialité, notamment des violences sexuelles.
Vous parlez des violences sexuelles. MSF a tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme sur le niveau alarmant des violences sexuelles dans ces zones de conflit. Ça continue.
Oui, les tendances que nous avons pu mettre en avant, les malheureuses tendances, continuent. Il est clair que la prévention ne fonctionne pas. Nous avons constaté les dernières semaines que, au-delà des déclarations d'intention, un réel plan d'action et un réel effort commun n'est pas d'actualité et n'est pas mis dans les agendas comme une claire priorité.
D'autant plus que les combats se poursuivent, notamment dans le Lubero, le nord de la province du Nord Kivu, une zone où les humanitaires ne sont pas encore massivement présents. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui pour les civils dans ces camps de déplacés ?
C'est clair. Médecins sans frontières songe aussi à envoyer une équipe pour faire une évaluation des besoins. Mais il est clair que là aussi, l'impact humanitaire, elle est clairement présent, elle est à évaluer davantage et à répondre surtout.
On va passer à une autre situation qui inquiète le pays, l'épidémie de Mpox. Ça fait plusieurs mois que l'urgence a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est aujourd'hui la situation du Mpox en RDC ?
J'ai pu le constater de nouveau à Minova. On voyait les conséquences du conflit, On voyait une épidémie aujourd'hui oubliée qui est le choléra, qui commence à remonter, et également le centre d'isolement pour la variole du singe, le Mpox. Il y a eu beaucoup d'efforts. Il y a eu le lancement de la première phase de la vaccination, mais je crois que ce qu'on a pu constater, et l'appel est là, c'est qu'avant tout, les bases de la lutte contre une épidémie soient assurées. Tout ce qui est prévention, contrôle, infection, les gestes de base afin de limiter la transmission, ne pas mettre tout sur l'outil supplémentaire qui aujourd'hui existe, mais à une certaine mesure. Il y aura une revue intra-action dans les semaines à venir de la réponse qui est en cours. Mais encore une fois, je crois que les bases sont à renforcer dans les différentes zones, non seulement à l'est, mais aussi à l'ouest du pays. Toute la partie endémique, Mpox, depuis les années 70, il y a certainement beaucoup de travail. Le gros défi étant la capacité de testing. Ça reste autant dans le sud Kivu, Bukavu, autant dans la partie ouest du pays, là où le bas blesse.
Emmanuel Lampart, merci.
Merci à vous.
Le directeur de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo, grand invité Afrique de RFI avec Pauline Azidi. Et bientôt 7h en temps universel. Allez, une petite respiration bien nécessaire avant le prochain journal. C'est Maman que vous retrouvez comme chaque semaine sur RFI. Maman, il faut bien le dire, cette année 2024... Qui se termine n'a pas été rose pour la démocratie.
Oui, rien que le nom de notre beau pays, la très très démocratique République, ce nom donne une bonne indication de ce qui en fait l'essence, ce qui en fait l'ADN, c'est-à-dire la démocratie. Ben oui, par exemple, quand on dit pétromonarchie, pas besoin de dessin, on devine tout de suite que le pétrole coule à flot dans les comptes de la famille royale. Et donc, quand on dit République très très démocratique, pas besoin d'avoir fait Sciences Po, on imagine tout de suite que dans les veines de tous les Gondouanais coule un seul sang bleu, la démocratie. En cette année 2024, comme chaque année au Gondwana, ben la démocratie a tellement fait feu de tout bois qu'elle s'est brûlée les doigts, les cheveux, les vêtements. Pour dire la vérité, on a plutôt ouvert le feu sur la démocratie. Eh oui, elle a le dos criblé d'impact de balles, la démocratie. Partout où tu regardes un très très démocratique république, pour tous les dégâts, il n'y a qu'une seule responsable, la démocratie. Le sous-développement, ben c'est la faute de la démocratie. Hein. La corruption, pareil, la démocratie. Il n'y a pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux. Toujours la faute de cette satanée démocratie. On n'avait pas de la démocratie, crient les jeunes Gondouanais qui n'ont connu que la démocratie depuis leur naissance. C'est bizarre. Tu n'as connu que le climat gondouanais toute ta vie, soleil, matin, midi et même le soir. Tu ne connais que ça. Et t'en as marre du soleil, de la chaleur, de la poussière, des moustiques toute la journée. Tu es convaincu que tout ce qui t'arrive de mauvais dans ta vie, ben c'est à cause de ce fichu climat. Tu veux du changement, tu veux du froid, tu veux des nuages dans le ciel, tu veux un temps gris, tu veux autre chose que ce temps monotone parce que c'est à cause de lui que rien ne va dans ta vie. Pourquoi tu ne me demandes pas mon avis, moi? Les jeunes, là, ils connaissent quoi de la vie? Ah, ok, excuse-moi, cher Gondwané Labda, tu m'as devancé. Oui, j'allais justement me déplacer dans ton coin pour recueillir tes éclaircissements, toi, le connaisseur de la très très démocratique république. Écoute, ces enfants-là, ils savent pas que quand on a trop chaud, il y a la climatisation, que contre la poussière, il faut de belles routes, etc., etc. Ce n'est pas la faute du climat ou de la démocratie s'il n'y a pas tout ça au Gondwana. Hein. Bon, je ne vois pas très bien où tu veux en venir, mon cher Gondwanais Lambda, mais je devine que tu veux expliquer à tes jeunes frères que s'ils n'aiment pas le climat gondwanais, mais qu'ils sachent que par d'autres latitudes, l'hiver est très très rude, il y a la neige, il y a le vent, il y a le gel, et que s'il faut la clim ici au Gondwana, eh bien là-bas, il faudra du chauffage, des habits chauds, même s'il y a des routes, des écoles et des hôpitaux. Et donc, ce n'est pas de la faute du soleil ou de la démocratie s'il n'y en a pas au Gondwana. C'est la faute des gens qui profitent de la démocratie ici. C'est pas la même chose. À demain.
À demain, Maman. Et merci, bientôt 7h en temps universel et sur RFI. L'info qui revient dans moins de 2 minutes. On part en Syrie à la une du prochain journal. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Nino et Niska.
Bébé, tu connais, cœur de pirate, du mal à me dévoiler. Dans le tiroir, j'ai tout cassé, ça te touche car j'ai trop bataillé.
un cœur en mille morceaux. J'avais besoin de stabilité.
La distance qui nous sépare, toi et moi.
Damso et Kalash.
Le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme.
RFI Musique.
Bas les pattes. Penaï Traoré.
Après une première saison sur la place des femmes dans les sociétés africaines dans l'ère post-MeToo, je vous reviens pour une saison 2. Et cette fois-ci, je m'intéresse aux inégalités de genre, aux mécanismes de la domination masculine et plus spécifiquement aux masculinités noires. Alors, retrouvez-moi dans la saison 2 de Bas les pattes.
Bas les pattes à écouter sur toutes les plateformes de podcast et cette semaine à 17h10 TU sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge App Afrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.